d'intervenir sur que personne ne méprise ta jeunesse. Alors cette fois-ci, bon, on ne m'a pas demandé, le temps passe, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous avez déjà entendu beaucoup aujourd'hui, vous avez déjà entendu beaucoup hier. Merci beaucoup. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui parle à un jeune dans la foi, à son enfant dans la foi, et qui l'exhorte à faire pas mal de choses, à s'appliquer à la lecture, à ne pas négliger le don qui est en lui, à enseigner, à s'appliquer, à s'exercer, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est un but, c'est l'objectif recherché. Et je commencerai en disant simplement, afin que tes progrès soient. Nous devons progresser. C'est une idée qui parcourt la Bible entière. Ceux qui m'ont déjà souvent entendu parler, et devant la chair, derrière la chair, et présenté dans des sermons, savent que c'est une idée qui me tient à cœur, l'idée de qu'il nous faille progresser, qu'il nous faille nous améliorer, qu'il nous faille donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. C'est une idée qui traverse la Bible. Tout enseignant de la parole de Dieu doit travailler à parfaire son enseignement. S'appliquer à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, s'il doit réfléchir avec l'aide de bons commentaires, il ne doit pas négliger de puiser directement à la source qu'est la Bible. La Bible elle-même, s'appliquer à la lecture. S'appliquer aussi à l'exhortation. Matthieu Sabine 6, 4, 13. Il faut apprendre par la pratique à exhorter afin d'atteindre le but recherché. Il faut savoir utiliser les bons mots. Il faut savoir utiliser les bonnes approches. Il faut savoir utiliser les bonnes méthodes. Il faut savoir utiliser la bonne forme. En 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 et 26, il est dit « Le serviteur du Seigneur doit être affable, ce qui veut dire courtois, poli. Le serviteur du Seigneur doit être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur. » Avec tact. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Être accueillant, inspirer confiance, être chaleureux, être d'accès facile, contribue à une exhortation efficace. Si vous voulez exhorter les autres, si vous voulez les encourager, si vous voulez les reprendre certaines fois, commencez à les aimer. Commencez à faire qu'ils aient confiance en vous. Commencez à vous rendre accessible. C'est ainsi, en exerçant ces qualités, que vous pourrez encourager, que vous pourrez exhorter. Vous savez, vous êtes tous arrivés, les responsables de l'Assemblée, ou même les aînés, de devoir reprendre quelqu'un. Et ce n'est pas toujours facile. Que Dieu fasse qu'il ne soit jamais facile pour vous, dans le sens où vous êtes content d'y aller pour écraser. C'est toujours difficile, mais il faut savoir le faire avec tact, avec amour, parce que c'est important. Nous devons délivrer des pièges du Satan, ceux qui se laissent prendre. Et quand je dis ceux qui se laissent prendre, je parle de chacun d'entre nous. Car chacun à notre tour, nous péchons, et nous avons besoin d'être encouragés, d'être repris. Il faut s'appliquer à l'enseignement. Il ne faut en aucune manière pervertir, frelater la parole de Dieu. Thessaloniciens 2, 3, Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Verset 5, jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Cela peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire. J'ai dit qu'il fallait savoir employer les bons mots, la bonne forme, la bonne méthode, mais cela ne veut pas dire qu'il faut pervertir, qu'il faut dénaturer la parole de Dieu. Il faut parler avec droiture, il faut parler avec fermeté, mais on peut parler avec fermeté tout en étant doux et aimant. En Thessaloniciens, en 2 Timothée 2,15, il est dit « Efforce-toi ». Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Il ne s'agit pas, pour faire plaisir, de raconter n'importe quoi. Il ne s'agit pas, pour faire plaisir, pour ne pas choquer, de laisser penser n'importe quoi. Nous avons une exigence de droiture, de rigueur. Nous ne pouvons pas mentir. Nous n'avons de force que pour la vérité. Mais rien ne nous autorise. Rien ne nous oblige à le faire avec brutalité, avec maladresse. Si nous avons dans l'esprit, lorsque nous nous approchons de quelqu'un, si nous avons comme objectif de permettre à cette personne de s'approcher de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons utiliser les bons moyens. Ne néglige pas tout don. 1 Timothée 4,14. Romains 12,6 dit: mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Verset 7, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, s'attache à l'exhortation. Dieu ne se contente pas du médiocre, il veut le meilleur. Et un professeur de la parole de Dieu, un enseignant, un responsable d'assemblée, doit tout faire pour parfaire son enseignement, son exhortation. En élargissant aux autres dons, puisqu'il existe d'autres dons aussi, aux autres services, il faut également chercher à s'améliorer, à faire de son mieux. En Romains 12,7, il dit, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, voici, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Il a dit que celui qui préside le fasse avec empressement, et nous qui devons faire les choses certaines fois, on peut être fatigué, et les gens peuvent nous taper sur les nerfs certaines fois, mais il faut continuer à le faire avec zèle, avec empressement, parce que nous savons ce que nous voulons faire, par amour pour Dieu, par amour pour ceux à qui nous parlons. En Thessaloniciens 4.1, il est dit, au reste frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Vous avez appris. C'est un apprentissage. Il faut vraiment s'y adonner, faire les efforts nécessaires. Alors il dit, vous avez appris de nous comment il faut. Vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progresser encore. Et voilà notre terme. Il faut progresser afin que vos progrès soient. Dieu veut que nous progressions. Dieu ne veut pas que nous stagnions. Dieu ne veut pas que nous laissions vivre. Dieu ne veut pas que nous dormions sur nos lauriers. Dieu ne veut pas, si nous avons des dons, si nous avons un don, si nous faisons des choses facilement, eh bien, qu'on fasse simplement comme ça sans y travailler. C'est la parabole des mines ou des talents. Dieu nous demande de travailler. En Timothée chapitre 4, verset 7, à la fin du verset 7, verset 8, il dit « Exerce-toi à la piété. » La piété, la vie selon Dieu, la marche selon Dieu. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout et à la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Je ne vais pas prendre ce verset simplement pour dire, eh bien, puisque l'exercice corporel est utile à peu de choses, que je ne dois pas en faire, même si j'en fais pas beaucoup. Mais c'est utile uniquement pour le corps, pour un temps sur terre. L'exercice spirituel, progresser, ça, c'est important. C'est important pour l'éternité et c'est important pour la vie éternelle de tous ceux qui nous entourent. C'est extrêmement important. En Hébreux 5, 12, il est dit, alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, et je saute, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Le chrétien, c'est celui qui grandit. C'est celui qui est capable de discerner entre le bien et le mal. Et il doit, ou nous devons, progresser dans ce discernement, dans cette aptitude, dans ces facultés de discerner entre le bien et le mal. Et si nous devons le faire, eh bien il faut lire, parce que la Bible nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, et nous exhorte à choisir le bien. Nous devons travailler et nous devons progresser. Que vos progrès soient. Afin que tes progrès soient, mais soient évidents, évidents pour tous. Pourquoi? Vous savez, on entend partout des gens dire, mais bon, moi, je crois en Dieu, et je vis ma vie, je n'ai pas besoin comme ça d'aller à l'église, de me faire voir, je vis ma vie, c'est entre moi et Dieu. Mais Dieu nous demande que nos progrès soient évidents aux yeux de tous. Évidents pour tous. Le regard des autres compte pour Dieu. C'est une vérité incontournable. Nous sommes regardés. Nous sommes regardés. Et comme il a été si bien dit, nous sommes livre ouvert. Nous avons déjà entendu cela. Et très souvent, avant même d'ouvrir la parole de Dieu, les gens perçoivent Dieu à travers notre comportement, notre conduite, notre façon d'agir en tant que chrétien. Ceux qui nous entourent, ceux qui nous côtoient, ceux qui nous croisent, ils nous voient, ils nous observent, et parfois même, ils nous épient. Et nous devons être un bon témoignage. Nous devons rendre un bon témoignage. Nous devons être ambassadeurs de Dieu. Et en nous regardant, ils doivent être attirés vers Dieu. Ne vous est-il pas arrivé de vous entendre dire, moi ça m'est arrivé, hein, donc, dites, bon, moi je n'ai pas la foi, donc je peux faire ça. Ou je ne vais pas à l'église, donc c'est pas grave si je me conduis de la sorte. Mais toi, cela m'étonne que tu agisses ainsi. J'avais un ami au lycée qui me l'avait dit. Bon, rassurez-vous, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement grave, ce n'était pas quelque chose de grave, mais c'était quelque chose qui n'était pas bien. Et celui-ci, qui franchement ne préférait pas la foi chrétienne du tout, il a dit, moi, que j'agisse ainsi, soit, mais toi, cela m'étonne de toi. Les gens nous regardent, ils nous voient. Et c'est important, ce que nous faisons a une importance, une très grande importance à leurs yeux, une très grande importance aux yeux de Dieu. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Si nous pouvons tromper les autres, rien ne nous échappe. Notre Seigneur est fier, il est content, il se réjouit lorsque nous progressons, lorsque nous agissons bien. Vous savez, Job, l'histoire de Job, elle commence comme ça. Il y avait dans le pays d'Outz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, et craignait craignait Dieu et s'écartait du mal. Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Dieu était fier de Job. Quel éloge ! Dieu veut également être fier de nous. Il veut que nous ayons une attitude, une conduite qui ne le fasse pas rougir, pour qu'il n'ait pas honte de nous. Il veut être fier de nous. Je prie Dieu qu'il soit fier de nous, quel que soit notre âge, quel que soit nos dons, quel que soit notre environnement. Dieu est fier de vous toutes les fois où vous agissez bien. Mais Dieu veut que nous soyons des illustrations de ce qu'il veut pour les hommes. Et cela a déjà été dit. Il veut que nous soyons des modèles, des ambassadeurs, des témoins. De même que Jésus est venu pour être l'image de Dieu, de même que les apôtres l'ont imité, nous devons suivre leur exemple aujourd'hui. Et c'est par nous que Dieu va agir, c'est par nous que Dieu va se manifester, c'est l'Église et la manifestation du royaume de Dieu, de l'amour de Dieu. En 2 Thessaloniciens 3, versets 7 et 9, 7 à 9, il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 1 Corinthiens 4, 16, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Philippiens 3, 17, soyez mes imitateurs, frères. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Dieu invite les chrétiens à regarder d'autres. Et Dieu invite les chrétiens à vous regarder, à me regarder. Hébreux 13, 7, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Ne vous dites pas, moi je ne peux pas être un exemple. Parce que de toute façon, vous êtes un exemple. Vous serez un bon exemple, ou vous serez un mauvais exemple, mais vous serez un exemple. Nous avons en tant que chrétiens une responsabilité. Ceux qui nous entourent jugeront la foi, la religion, Dieu même, en fonction de ce qu'ils voient en nous, chez nous. Dieu attache beaucoup de prix au témoignage que nous rendons à notre comportement. C'est lors du choix des diacres en acte 6, les apôtres, qu'est-ce qu'ils demandent? En acte 6, 3, ils disent, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Paul enseigne que pour choisir des anciens, il faut tenir compte de leur témoignage. 1 Timothée 3, 7, il faut que l'évêque, l'ancien, reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 1 Timothée 3, 8, les diacres doivent être respectables. Verset 10, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Aucun diacre ne devrait être nommé aussi longtemps qu'il n'a pas été reconnu publiquement ou par tous digne de cette fonction. Vous savez, Jésus a adressé des reproches aux scribes et aux pharisiens en Matthieu 23, des reproches sévères, hein. Vous dites, mais ne faites pas, etc., hypocrite. Mais nous devons certaines fois lire ce passage et nous approprier, nous appliquer ces reproches ou ces mises en garde. Nos œuvres doivent être conformes à notre enseignement. Nous ne devons pas être des hypocrites, car ceux qui nous regardent ne sont pas dupes. Nos progrès doivent être évidents pour tous. Alors quand on dit tous, c'est vraiment tout le monde. Alors j'ai donné l'exemple de Dieu qui nous regarde, mais nos progrès doivent être évidents pour Dieu. Bon, bien sûr, il voit tout, mais il se réjouit de nos succès et surtout de notre progression dans la vie chrétienne. Évident pour tous, cela veut dire pour nos proches. Évident pour tous, cela veut dire pour notre compagne ou pour notre compagnon. En Malachie 2, Dieu récriminait et reprochait aux hommes, aux juifs qui voulaient offrir un sacrifice, les pleurs de leurs femmes. Et on pourrait nous reprocher les pleurs, la souffrance de notre vis-à-vis. Et cette souffrance pourrait être un obstacle à notre adoration et pourrait être aussi un obstacle pour cette personne. Même s'il n'est pas chrétien, si vous êtes marié à une femme, à un homme non chrétien, la Bible vous dit que votre témoignage peut sauver ce vis-à-vis. Le témoignage est extrêmement important. 1 Corinthiens 7 et verset 16. Nos progrès doivent être évidents pour nos enfants. Éphésiens 6, 4. Et vous, frères, n'irritez pas, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Colossiens 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. C'est important. Nos progrès doivent être évidents aux yeux de nos enfants. Enseigner des principes que nous n'appliquons pas personnellement peut être irritant et décourageant pour nos enfants. Pour nos parents aussi. Et là, c'est l'idée du juif, ceux qui ne voulaient pas, qui prétextaient avoir donné à Dieu leur bien et qui délaissaient, qui négligeaient leurs parents. Rendons à nos parents l'amour, la considération, l'honneur qui leur sont dus. Et même si nos parents ne sont pas chrétiens. Cette idée que puisque nous sommes chrétiens, puisque nous appartenons à une grande famille, à une nouvelle famille, que nous devons privilégier cette famille au détriment de notre famille en la chair, n'est pas une idée biblique. Bien sûr, on doit aimer tout le monde, on doit aimer nos frères, mais nous ne devons pas délaisser nos parents. Ça, c'est un mauvais témoignage. Les membres de l'Assemblée aussi, les autres chrétiens, nos progrès doivent être évidents à leurs yeux. Ne soyons pas une occasion de chute pour les chrétiens plus faibles, plus jeunes qui nous regardent. Romains 14, 13, usez de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. 1 Corinthiens 8, 9, prenez garde que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Notre témoignage est important. Et notre témoignage est important pour ceux du dehors. 1 Pierre 2, 12, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Si nous avons un bon témoignage envers ceux du dehors, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. Il pourrait, mais là je ne vais pas en dire plus parce que t'inquiète, je vais m'arrêter là parce qu'il y a quelqu'un qui parle après. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, il dit, et là il parle des faux prophètes, et il dit, beaucoup les suivront dans leur règlement, dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. En tant qu'enseignant de la Bible, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, ce serait quelque chose de gravissime, que la parole de Dieu, que la vérité soit calomniée à cause de nous. Il faudrait tout faire pour que Dieu ait la gloire, la bonne renommée, une bonne réputation, rende que nous rendions un bon témoignage à Dieu. Il y a plusieurs années, Don de Berti, à l'occasion d'une réunion de jeunes, Alors bien sûr, il parlait, vous savez, c'est traditionnel avec les jeunes, donc on leur parle de sexualité, on leur parle des relations hommes-femmes, etc. Et bien il me dit un jour, si une de mes cousines, une cousine proche, était de passage à Paris, mais que j'étais seul à la maison, parce que Colette n'était pas là, en l'absence de mon épouse, je ne l'hébergerai pas, cette cousine. Je lui paierai, de préférence, une chambre à l'hôtel. Tu dis, oh, mais ça c'est incroyable, bon, il exagère quand même, hein. C'est... Bon, mais vous savez, il donne aussi un timbre sur une enveloppe, il n'utilisait pas. Bon, personne ici n'utilise un timbre non habituel. Il nous dit qu'il n'hébergerait pas sa cousine. Alors, on a trouvé ça vraiment beau. Mais il dit ça parce qu'en fait, autour de lui, les gens voient arriver chez vous une femme, ils ne savent pas si c'est votre cousine. Ils peuvent penser, et quand bien même il n'y en a rien, c'est pas un bon témoignage. Votre témoignage est important. Ne rien faire, ne rien dire qui puisse nuire à la bonne réputation de l'Église, à la bonne réputation de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginez combien nous sommes regardés et combien nos actes à l'Église sont connus. J'ai toujours été étonné de tout ce que ma belle-mère, la mère de Marie-Chantal et de Jacques, sait au niveau de l'Église. Ce serait pour moi une source intarissable, un indice formidable. Les gens nous regardent, les gens entendent, les gens voient, et cela a une importance pour leur foi, cela a une importance pour nous également. En conclusion, j'aimerais simplement vous rappeler que notre témoignage est capital dans la maison, dans la mission que Dieu nous a confiée. Ceux qui nous entourent nous regardent, nous écoutent, nous observent, et juge Dieu selon ce que sont, selon ce que font ses enfants. Que Dieu nous aide chacun, là où nous sommes, à progresser. La Bible ne nous demande pas d'être des super chrétiens dans le sens d'offrir une image d'homme infaillible, qui soit parfait. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, ils ne s'attendent pas vraiment à ce que nous soyons parfaits.